Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui est le récit de deux des trois paraboles de la miséricorde, la troisième étant celle du Fils prodigue. La miséricorde est dans notre monde la vertu qui est souvent bafouée. Et ce n'est pas pour rien que le pape François a lancé fin 2015 l'année de la miséricorde. Et une des plus belles définitions de la miséricorde que j'ai trouvée est celle de Martin Buber racontant l'épisode d'un rabbin polonais, juif, du XVIIIe siècle, et qui disait « Quand quelqu'un vient à moi, je me sens percé d'une telle compassion que je descends échelon par échelon jusqu'au plus profond de sa chute. Et ensuite, quand je suis arrivé aux profondeurs mêmes, j'attache la racine de mon âme à la racine de la sienne, et conscient que nous sommes un, je commence à pleurer notre péché commun. Et alors, il est emporté dans ma repentance. » Qui a passé sa vie entière dans cette démarche? Et non pas seulement vis-à-vis d'un homme, mais à l'égard de toute l'humanité. Qui a pris en charge tout le péché, c'est-à-dire l'éloignement de Dieu? C'est le Christ. Le premier récit, celui de la brebis perdue, est donc l'éloge de la miséricorde de Dieu. La miséricorde ne se base pas sur des considérations économiques. Une seule brebis sur 100 se perd, et le berger part à sa recherche, en laissant les 99 autres dans le désert. L'image que véhicule le monde d'aujourd'hui va à l'opposé. C'est plutôt « gardons bien les 99 qui ne s'égarent pas et qui vivent conformément aux prescriptions de la société, et tant pis pour ceux et celles qui se perdent par un comportement jugé non correct ». Les politiques qui sont menées actuellement par la plupart des États vont dans le sens de l'efficacité économique. Et tant pis pour ceux qui ne savent pas suivre. Un qui se perd, qu'importe si les 99 autres suivent bien les prescriptions. Le monde bien-pensant nous dit que l'Évangile est abscon, dépassé. Mais ne pensez-vous pas comme moi que si le programme politique de nos élus s'inspirait un peu plus de ce type de parabole, le monde se porterait beaucoup mieux. Et ne nous arrêtons pas à nos élus, ce serait trop facile. Est-ce que chacun d'entre nous, ne devrions-nous pas nous inspirer aussi de ces paraboles dans notre vie de tous les jours? N'assistons-nous pas à un individualisme de bonne conscience au niveau personnel, au niveau étatique et collectif? Tant pis pour ceux qui sont perdus. Vous allez me dire, ce n'est pas neuf. Déjà à l'époque du Christ, les pharisiens et les scribes pensaient de cette façon. Et même avant, du temps des prophètes, comme nous le mentionne Ézéchiel. Mais l'humanité est une, et tout ce qui est fait à n'importe quelle époque élève ou abaisse l'humanité. Ce qui a été fait est fait, et nous ne pouvons rien changer au passé. Mais nous pouvons changer les choses aujourd'hui et influencer le monde à venir. Nous pouvons rester les bras croisés et se mettre du côté des 99 justes, ou bien endosser l'habit du berger et à notre niveau rechercher la brebis perdue. Tous, nous sommes invités à être pasteurs, à risquer notre réputation, à égratigner notre confort, nos privilèges, pour aller annoncer et concrétiser la bonne parole, pour remettre la miséricorde en tête de liste de nos priorités. Le Christ nous invite à être persévérants dans notre recherche, notre action, à ne pas nous arrêter parce que c'est trop difficile, mais à aller jusqu'à ce qu'il la retrouve, c'est-à-dire jusqu'au bout. Oui, le Christ est exigeant. Et comme dans le récit de la semaine passée, nous avons souvent d'autres choses à faire et nous préférons ne pas trop nous investir. « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Nous pouvons être dans la paix, en restant dans notre confort. Mais la joie, cette joie qui vient de Dieu, ne s'installera en nous que si nous devenons un avec le Christ, si nous vivons semblablement à lui. La femme qui a perdu la drachme décrit ce qu'est l'attitude de Dieu et ce que devrait être notre attitude. Dieu n'a de cesse de nous retrouver pour restaurer en nous son image et nous montrer sa miséricorde. Il met tout en œuvre pour atteindre son but. Et le pécheur qui se repent n'est pas celui qui se culpabilise, mais c'est celui qui change sa pensée, qui fait méta, change, noia, pensée. L'idée est celle d'une complète transformation dans la direction que nous donnons à notre vie, nous mettre dans la mentalité de Dieu et nous revêtir de sa miséricorde. Et une première étape pour chacun d'entre nous serait peut-être chaque jour de penser à une personne qui nous semble s'égarer, que nous avons tendance à éviter. Portons-la dans nos prières. Entourons-la d'un faisceau de pensées positives, de compassion, de miséricorde, d'amour. Bénissons-la, et comme le berger, comme le Christ, mettons-la sur notre épaule, sur nos épaules, et la grâce divine agira sur lui et sur nous. À lui soit honneur, gloire et louange. Amen.
Prions le Seigneur.